Il y avait plus de 20 ans que je n'étais pas allé en Asie. Notre tournée de 7 jours a débuté à Tokyo, où j'ai prononcé un discours sur l'avenir de l'alliance américano-japonaise et rencontré le Premier ministre Yukio Hatoyama pour parler de la crise économique de la Corée du Nord et du projet de déménagement de la base américaine d'Okinawa. Hatoyama, interlocuteur plaisant quoique emprunté, était le 4e Premier ministre en moins de 3 ans et le 2e depuis mon élection, symptôme des politiques sclérosées et incohérentes dont pâtissait le Japon depuis près d'une décennie. Il quitterait son poste 7 mois plus tard. J'ai été plus profondément marqué par ma courte visite à l'empereur Akihito et à l'impératrice Michiko dans leur palais. Très petit, 70 ans bien passés, ils m'ont souhaité la bienvenue dans un anglais impeccable, lui vêtu d'un costume à l'occidental et elle d'un kimono à brocart, et je me suis incliné en signe de respect. Ensuite, ils m'ont conduit dans une salle de réception à dominante crème et sobrement décorée dans le style japonais traditionnel, et pendant que nous prenions le thé, ils m'ont posé des questions sur Michel, sur les filles et sur ma vision des relations entre les États-Unis et le Japon. Leur manière était à la fois protocolaire et discrète, leur voix aussi douce que le bruit de la pluie, et je me suis pris à tenter d'imaginer la vie de l'empereur. Je me suis demandé ce que cela faisait d'être né d'un père considéré comme un dieu, puis d'être contraint d'endosser un rôle essentiellement symbolique plusieurs décennies après la défaite cuisante de l'Empire japonais. L'histoire de l'impératrice me passionnait encore plus. Fille d'un riche industriel, elle avait fréquenté des écoles catholiques et étudié la littérature anglaise, et était, en 26 siècles d'histoire du trône du chrysanthème, la première roturière à s'allier à la famille impériale, ce qui lui valait l'amour du peuple japonais, mais causait, à ce que l'on racontait, des tensions avec sa belle famille. En cadeau d'adieu, l'impératrice m'a offert une composition pour piano qu'elle avait écrite, en m'expliquant avec une franchise désarmante que son amour de la musique et de la poésie l'avait aidé à supporter de longues périodes de solitude. Par la suite, j'apprendrai que ma simple révérence devant des hôtes japonais plus âgés que moi avait provoqué un tollé chez les conservateurs américains. Un obscur blogueur l'avait qualifié de « trahison », terme ensuite repris et amplifié par la presse grand public. En entendant cela, j'ai revu l'empereur, enseveli dans ses devoirs rituels, et l'impératrice, sa beauté grisonnante arborée avec grâce et son sourire teinté de mélancolie, et je me suis demandé à quel moment une si grande partie de la droite américaine, apeurée et en mal de confiance, avait basculé dans la folie. Après Tokyo, je me suis rendu à Singapour, où je devais rencontrer les dirigeants de l'ASEAN. Ma participation à ce sommet n'était pas non plus dénuée de polémiques potentielles. La Birmanie, un des États membres, était depuis plus de 40 ans sous le joug d'une junte militaire violente et les présidents Clinton et Bush avaient refusé toute rencontre avec le groupe tant qu'elle en ferait partie. Cependant, je ne voyais pas l'intérêt de nous aliéner 9 pays du sud-est asiatique pour signaler notre désaccord avec un seul d'entre eux, surtout en sachant que les États-Unis conservaient des relations amicales avec plusieurs membres de l'ASEAN qui étaient loin d'incarner la vertu démocratique, parmi lesquels le Vietnam et le Brunei. Dans le cas de la Birmanie, les États-Unis appliquaient des sanctions importantes. Au-delà de ces mesures, nous avons décidé que si nous voulions l'influencer, le meilleur moyen serait de nous montrer disposés à discuter. Le premier ministre birman était un général nommé Thein Sein, aux manières courtoises et aux traits fins. Notre interaction, qui n'a pas dépassé le stade de la brève poignée de main, n'a pas fait couler beaucoup d'encre. Les dirigeants de l'ASEAN ont exprimé leur enthousiasme pour le réengagement des États-Unis, tandis que la presse asiatique soulignait les liens que j'avais depuis l'enfance avec la région, une première pour un président américain et, d'après les journaux, une évidence qui se voyait à mon goût pour la cuisine de rue et à ma capacité à saluer le président indonésien en bahasa. En réalité, j'avais oublié presque tout mon indonésien et ne savais plus que dire bonjour et commander à manger. Mais bien que je ne sois pas venu depuis longtemps, j'ai tout de suite retrouvé ma familiarité avec l'Asie du Sud-Est. Cet air humide et langoureux, ces effluves de fruits et d'épices, la subtile retenue de sa population. Pour autant, Singapour, avec ses larges boulevards, ses jardins publics et ses immeubles de bureaux, n'avait plus grand-chose à voir avec l'ancienne colonie britannique que j'avais connue. Déjà dans les années 1960, c'était une des réussites de la région, une cité-État où cohabitaient Malais, Indiens et Chinois, et qui, en associant économie de marché, compétences bureaucratiques, faible corruption et contrôle social et politique strict, avait aimanté les investissements étrangers. Par la suite, la mondialisation et la croissance générale de l'Asie avaient encore accéléré son essor, Et désormais, avec ses restaurants gastronomiques et ses boutiques de haute couture où se croisaient hommes d'affaires en costume et jeunes gens à la dernière mode hip-hop, le pays affichait une richesse rivalisant avec celle de New York ou de Los Angeles. En un sens, Singapour restait une exception. La majorité des autres membres de l'ASEAN souffraient toujours, à des niveaux divers, d'une pauvreté tenace, et leur engagement en faveur de la démocratie et de l'état de droit demeurait très variable. Ce qui semblait les rapprocher, cependant, c'était le regard neuf qu'ils portaient sur eux-mêmes. Les gens à qui j'ai pu parler, qu'ils soient chefs d'État, hommes d'affaires ou militants des droits fondamentaux, continuaient à témoigner un certain respect pour la puissance américaine. Mais ils ne voyaient plus l'Occident comme le centre d'un monde dans lequel leur pays était irrévocablement relégué au second plan. Ils se considéraient désormais comme au moins les égaux de leurs anciens colonisateurs, et les rêves qu'ils nourrissaient pour leur peuple ne se heurtaient plus à des questions de géographie ou d'origine ethnique. De mon point de vue, c'était une bonne chose, un prolongement de la croyance américaine dans la dignité de tous les peuples et une concrétisation de la promesse que nous avions faite au monde bien des années plus tôt. Emboîtez-nous le pas, libéralisez votre économie, et si tout se passe bien, vous et vos gouvernements connaîtrez la même prospérité que nous. À l'instar du Japon et de la Corée du Sud, les pays de l'ASEAN avaient été de plus en plus nombreux à nous prendre au mot. En tant que président des États-Unis, il m'appartenait de veiller à ce qu'ils jouent selon les règles, à ce que leur marché nous soit aussi ouvert que le leur l'était au nôtre, et que leur développement ne repose pas sur l'exploitation des travailleurs ou la destruction de l'environnement. Tant que l'Asie du Sud-Est serait en concurrence honnête avec nous, j'estimais que l'Amérique devrait se réjouir de son épanouissement et non le craindre. Je me demande aujourd'hui si c'est ce que les critiques conservateurs trouvaient si rebutant dans ma politique, la raison pour laquelle un geste aussi anodin qu'une révérence devant l'empereur japonais a pu déclencher leur fureur. Contrairement à eux, je ne me sentais visiblement pas menacé par la perspective que le reste du monde nous rattrape. Shanghai, notre première étape chinoise, m'a évoqué Singapour sous stéroïdes. Visuellement, la ville faisait honneur à sa réputation. C'était une immense métropole moderne, un brouhaha de 20 millions de voies qui grouillait de boutiques, de véhicules et de grues. D'énormes bateaux et barges transportant des marchandises destinées au marché du monde entier glissaient sur le fleuve Huangpu. Sur la berge, des foules de badauds arpentaient la large promenade en s'arrêtant de temps à autre pour admirer les gratte-ciels futuristes qui s'élevaient de toutes parts et n'étaient pas moins flamboyants que le strip de Las Vegas à la nuit tombée. Dans une luxueuse salle de réception, le maire de la ville, une étoile montante du parti communiste qui avait des airs de Dean Martin avec son costume sur mesure et son raffinement enjoué, avait sorti le grand jeu pour le déjeuner auquel notre délégation était conviée avec des chefs d'entreprise chinois et américains, en nous servant des mets rares et des vins qui n'auraient pas détonné dans un mariage princier au Ritz. Fidèle à lui-même, mon assistant, Reggie Love, était surtout impressionné par le personnel, intégralement composé de jeunes femmes sublimes en élégantes robes blanches, aussi sveltes que des top modèles. « J'aurais jamais cru que les communistes ressemblaient à ça », a-t-il commenté, ébahi. La dissonance entre l'idéologie officielle de la Chine et ce genre d'étalage de richesses n'a pas été abordée lors de ma rencontre publique un peu plus tard dans la journée avec plusieurs centaines d'étudiants. Sachant que j'aimais ce type de format improvisé, les autorités chinoises avaient soigneusement sélectionné les participants, tous issus d'une des plus prestigieuses universités de la ville. Et malgré la courtoisie et l'enthousiasme de ces jeunes gens, il manquait à leurs questions le côté pénétrant et irrévérencieux auquel les autres pays m'avaient habitué. Quelles mesures allez-vous prendre pour renforcer encore les relations entre les villes américaines et la Chine ? A été la question la plus hardie. Je n'arrivais pas à déterminer si les responsables du parti avaient validé les interventions au préalable ou si les étudiants avaient eu l'intelligence de ne rien dire qui puisse leur causer des ennuis. À l'issue de la rencontre, et après avoir serré quelques mains et discuté avec certains et certaines d'entre eux, j'en ai conclu que leur vibrant patriotisme était au moins en partie sincère. Ils étaient trop jeunes pour avoir connu les horreurs de la révolution culturelle ou assisté à la répression de la place Tiananmen. Cette histoire-là n'était pas enseignée dans les écoles, et je doutais qu'elle leur ait été transmise par leurs parents. Certains de ces étudiants avaient beau râler parce que le gouvernement restreignait leur accès à Internet, la réalité de l'appareil répressif chinois n'était vraisemblablement qu'une abstraction pour eux, au même titre que le système judiciaire américain pour nos jeunes blancs des banlieues pavillonnaires. Depuis leur naissance, le système chinois avait propulsé ces jeunes et leurs parents sur une trajectoire ascendante, tandis que, vu d'ici, les démocraties occidentales paraissaient au point mort, paralysées par les dissensions politiques et l'inefficacité économique. Il était tentant de croire qu'ils changeraient d'avis avec le temps, soit parce qu'un ralentissement de la croissance chinoise viendrait contrarier leurs aspirations matérielles, soit parce que, ayant atteint une certaine sécurité économique, ils commenceraient à désirer des choses qui ne se mesuraient pas en points de PIB. Mais c'était loin d'être garanti. De fait, la réussite de la Chine avait imposé son capitalisme autoritaire comme une option alternative au libéralisme occidental dans l'esprit des jeunes gens de Shanghai, et plus largement de tous les pays en développement. La géopolitique du siècle à venir serait déterminée par la direction qu'il privilégierait. Et j'ai quitté la rencontre avec la conscience aiguë que, pour gagner cette nouvelle génération à ma cause, je devrais lui prouver que le système américain, pluraliste et démocratique, reposant sur les droits fondamentaux, avait encore les moyens de leur promettre une vie meilleure. Bien que Pékin ne soit pas aussi tapageuse que Shanghai, nous avons tout de même longé, entre l'aéroport et la ville, une trentaine de kilomètres de tours d'habitation flambant neuves, à croire que 10 Manhattan étaient sortis de terre dans la nuit. Puis les centres d'affaires et les quartiers résidentiels ont cédé la place aux immeubles gouvernementaux et aux monuments du cœur de la ville. Comme chaque fois, ma rencontre avec le président Hu Jintao a été soporifique. Quel que soit le sujet, il puisait dans d'épaisses piles de remarques toutes prêtes, s'arrêtant par moments pour laisser la place à des traductions en anglais qui semblaient elles aussi toutes prêtes et réussissaient à être encore plus longues que les phrases de départ. Quand venait mon tour de parler, il parcourait ses papiers en cherchant la réponse que ses assistants lui avaient préparée. Mes efforts pour rompre la monotonie avec des anecdotes personnelles ou des plaisanteries, il faudra que vous me donniez le nom de votre artisan, lui ai-je dit en apprenant que le gigantesque palais de l'Assemblée du Peuple avait été construit en moins d'un an. Ce sont le plus souvent soldés par des regards vides, et j'ai eu plus d'une fois envie de lui suggérer que nous échangions nos documents pour les lire à notre guise, et éviter ainsi de perdre notre temps. Ce moment passé avec Hu m'a toutefois donné l'occasion de lui exposer nos priorités. La sortie de la crise économique et l'encadrement du programme nucléaire nord-coréen, la résolution pacifique des conflits en mer de Chine méridionale, le traitement réservé aux dissidents chinois et l'établissement de nouvelles sanctions contre l'Iran. Sur ce dernier point, j'ai souligné que cela irait dans l'intérêt de la Chine car, faute d'actions diplomatiques significatives, les États-Unis ou Israël seraient contraints de sévir contre les installations nucléaires iraniennes avec des conséquences très graves pour l'approvisionnement de la Chine en pétrole. Comme je m'y attendais, Hu ne s'est pas prononcé sur les sanctions, mais à en juger par son langage corporel et par les notes que griffonnaient furieusement ses ministres, notre message sur l'Iran était bien passé. Le lendemain, j'ai employé la même approche frontale lors de mon rendez-vous avec le Premier ministre Wen Jiabao, qui, bien qu'occupant un rang inférieur, était le principal décisionnaire économique du pays. Contrairement au président Hu, Wen paraissait à l'aise avec les conversations improvisées, et il n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'est agi de défendre la politique commerciale de la Chine. Comprenez bien, monsieur le président, que malgré ce que vous avez vu à Shanghai et à Pékin, nous sommes toujours un pays en développement. Un tiers de notre population vit dans une extrême pauvreté. C'est plus que la population entière des États-Unis. Vous ne pouvez pas nous demander d'adopter les mêmes politiques qu'un pays avancé comme le vôtre. Il marquait un point. Malgré l'essor remarquable de son pays, les revenus des ménages chinois moyens, surtout hors des grandes villes, restaient inférieurs à ceux des Américains les plus démunis. J'ai tenté de me mettre à la place de Wen, chargé d'intégrer une économie à cheval entre le féodalisme et l'ère de l'information, tout en créant suffisamment d'emplois pour satisfaire la demande d'une population égale à celle de tout le continent américain. J'aurais eu davantage de compassion si je n'avais pas su que les hauts dignitaires du Parti communiste, tels que lui, avaient pour habitude de réserver à leur famille les appels d'offres et les autorisations administratives et d'expédier des milliards de dollars dans des paradis fiscaux. J'ai donc répondu à Wen que, étant donné le profond déséquilibre commercial existant entre nos deux pays, les États-Unis ne pouvaient plus ignorer les pratiques déloyales de la Chine, notamment ses manipulations monétaires. Soit la Chine rentrait dans le rang, soit nous devrions prendre des mesures de rétorsion. En entendant cela, Wen a changé de braquet et suggéré que je lui fournisse une liste de produits américains que nous souhaitions vendre à la Chine en plus grande quantité, et il verrait ce qu'il pourrait faire. Il a particulièrement insisté sur les produits militaires et de haute technologie dont les États-Unis interdisaient la vente à la Chine pour des raisons de sécurité nationale. Je lui ai expliqué que nos pays n'avaient pas besoin de concessions au cas par cas, mais d'une solution structurelle, car notre échange me donnait l'impression que nous étions en train de marchander le prix d'un poulet, au lieu de négocier les relations commerciales entre les deux plus grandes économies du monde. Cela m'a rappelé une fois de plus que, pour Wen comme pour tous les dirigeants chinois, la politique étrangère n'était qu'une question de transaction. Ce que la Chine allait céder et ce qu'elle allait prendre n'obéirait pas aux principes abstraits du droit international, mais à une évaluation de la puissance et de l'influence du camp adverse. Lorsque la Chine ne rencontrait pas de résistance, elle continuait à prendre. Notre premier jour à Pékin s'est achevé par l'incontournable dîner officiel, assorti d'un programme culturel comprenant un opéra classique chinois, des danses traditionnelles tibétaines, ouïghours et mongoles. Le présentateur faisait dûment remarquer que toutes les minorités étaient respectées en Chine, affirmation qui n'aurait pas manqué d'étonner les milliers de prisonniers politiques tibétains et ouïghours, et une reprise de « I just called to say I love you » de Stevie Wonder par l'orchestre de l'armée populaire de libération. « Nous savons que c'est votre chanson préférée », m'a dit le président Hu en se penchant vers moi. Après 5 jours de voyage, notre équipe était à bout de force, éreintée par le décalage horaire. À la table voisine de la nôtre, Larry Summers dormait à point fermé, la bouche ouverte et la tête en arrière, ce qui a donné à Favs l'idée d'envoyer un email à tout le groupe. J'ai l'impression que quelqu'un a bien besoin d'un plan de relance. Le lendemain, vaseux mais vaillant, nous avons tous, y compris Larry, lutté contre le jet lag pour aller visiter la Grande Muraille. Le temps était froid et venteux, le soleil réduit à un vague filigrane dans le ciel gris, et nous avons arpenté sans un mot les remparts escarpés qui serpentaient sur le flanc de la montagne. Notre guide nous a expliqué que certaines sections de la Grande Muraille remontaient à l'an 200 avant notre ère. La portion sur laquelle nous nous trouvions, elle, datait seulement du 15e siècle, à l'époque où la dynastie Ming devait repousser les envahisseurs mongols et mandchous. Ce mur avait tenu bon pendant des centaines d'années. Reggie m'a donc demandé ce qui avait entraîné la chute de la dynastie Ming. « Des querelles intestines », ai-je répondu. Lutte de pouvoir, corruption, les paysans mouraient de faim parce que les riches devenaient avides ou méprisants. « Comme d'habitude, quoi », a commenté Reggie. « Comme d'habitude. » La présidence bouleverse votre horizon temporel. Il est rare que vos efforts portent immédiatement leurs fruits. La majorité des problèmes qui atteignent votre bureau sont trop vastes et les facteurs trop nombreux. Il faut apprendre à juger sa progression en fonction d'étapes plus modestes, qui peuvent chacune exiger des mois de travail et ne méritent aucune déclaration publique, et accepter le fait que l'objectif final, si jamais vous y parvenez, ne sera pas atteint avant 1 an ou 2, voire avant la fin de votre mandat. Et c'est encore plus vrai en matière de politique étrangère. Si bien que, au printemps 2010, quand les résultats d'une de nos initiatives diplomatiques majeures ont commencé à apparaître, je me suis senti regonflé. Tim Geithner m'a rapporté que les Chinois avaient discrètement laissé leur monnaie s'apprécier. En avril, je suis retourné à Prague pour rencontrer le président russe Medvedev et signer en grande pompe le nouveau traité START, qui allait diminuer d'un tiers le nombre d'ogives déployées par les deux parties et dont l'application serait assurée par de rigoureux mécanismes d'inspection. Un peu plus tard, en juin, grâce aux voix déterminantes de la Russie et de la Chine, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1929 imposant des sanctions inédites à l'Iran, parmi lesquelles l'interdiction de vendre des armes, la suspension de toute nouvelle activité financière internationale pour les banques iraniennes et un mandat général pour interdire tout commerce susceptible de permettre à l'Iran de poursuivre son programme de développement d'armes nucléaires. Il faudrait quelques années pour que le plein effet de ces sanctions se fasse sentir, mais en ajoutant un nouvel ensemble de mesures propres aux États-Unis, nous avions désormais les instruments nécessaires pour bloquer l'économie de l'Iran tant qu'il n'accepterait pas de négocier. Cela me fournissait en outre un puissant argument pour recommander la patience lors des discussions avec les Israéliens et tous ceux qui voyaient dans la question nucléaire le prétexte commode d'une confrontation entre les États-Unis et l'Iran. La coopération de la Russie et de la Chine a été le fruit d'un travail d'équipe. Hillary et Susan Rice ont passé des heures à persuader, amadouer et parfois menacer leurs homologues des deux pays. McFaul, Burns et Samore, quant à eux, nous ont apporté un soutien stratégique et tactique décisif pour réfuter ou contourner tous les objectifs soulevés par les négociateurs russes et chinois. Enfin, ma relation avec Medvedev s'est révélée cruciale dans la mise en place concrète des sanctions. En marge des sommets internationaux, nous réservions des moments pour sortir les négociations de l'ornière. À mesure que le vote au Conseil de sécurité approchait, nous avons commencé à nous appeler pratiquement toutes les semaines. « Nos oreilles sont engourdies », a-t-il dit en riant à la fin d'un coup de fil marathon. Parfois, Medvedev allait même plus loin que Burns ou McFaul ne l'estimaient possible, compte tenu des liens anciens unissant Moscou à Téhéran et des millions de dollars que des fabricants d'armes russes aux bras longs allait perdre une fois les sanctions appliquées. Le 9 juin, jour du vote, Medvedev nous a étonnés une fois de plus en annonçant qu'il annulait la vente des missiles S-300 à l'Iran. Un revirement par rapport à sa position précédente, mais aussi à celle de Poutine. Pour compenser une partie des pertes russes, nous avons décidé de lever les sanctions imposées à plusieurs entreprises russes qui avaient par le passé vendu des armes à l'Iran. Je me suis aussi engagé à accélérer les négociations sur l'entrée sans cesse retardée de la Russie dans l'OMC. Au demeurant, en s'alignant avec nous sur l'Iran, Medvedev affirmait sa volonté d'axer sa présidence sur un rapprochement avec les États-Unis et, comme je l'ai dit à Ram, c'était de bon augure pour notre coopération future sur les autres priorités internationales, à condition que Poutine ne lui coupe pas l'herbe sous le pied. L'adoption des sanctions, la signature du nouveau traité START, un début d'amélioration des pratiques commerciales chinoises. Ce n'étaient pas des victoires qui changent le monde, et aucune ne justifiait un prix Nobel. Cela dit, si elles avaient précédé cette récompense de 8 ou 9 mois, je me serais senti un peu moins penaud en la recevant. Dans le meilleur des cas, c'était des jalons, des étapes sur une longue route en territoire inconnu. Parviendrions-nous à faire advenir un futur dénucléarisé? À empêcher un nouveau conflit armé au Moyen-Orient? Existait-il un moyen de coexister pacifiquement avec nos rivaux les plus redoutables? Aucun de nous n'avait les réponses à ces questions. Mais au moins, nous avions le sentiment d'avancer dans la bonne direction.